économique qui dit quand tu donnes de l'argent en haut, ça descend vers le bas. Mais le ruissellement de l'économie, c'est intéressant parce que, dans le fond, on donne des crédits d'impôt existants, des crédits d'impôt pour la chaîne d'approvisionnement. On dit que ça va créer des emplois qui vont générer de l'impôt et donc de la consommation locale, qu'on va peut-être s'approvisionner dans les 6 secteurs composantes majeures des batteries. Mais c'est fascinant. Honda fait beaucoup d'argent. Honda va bien. Honda est un leader mondial. Mais dans son modèle d'affaires, les fabricants automobiles, Patrick, sont rendus avec l'électrique de la même façon que les équipes de hockey sont rendues avec les villes. C'est-à-dire qu'on est correct avec notre produit, mais la façon d'y faire gagner plus de valeur encore, c'est de se faire convaincre par des autorités locales qu'elles doivent nous payer pour qu'on existe, pour vendre notre produit aux locaux et aux autres du monde. Alors, c'est mon fataliste. Je ne sais pas quoi faire de plus que dire « on est dans ce trouble-là mondial ». Mais quand tu regardes ça, toute proportion gardée, hey, on donne des 10 000 à des PME pour bâtir des programmes, Patrick, de création de valeur. Puis tu prends une multinationale, tu dis, vous autres, là, pas de problème, 5 millions par emploi. Tu trouves pas ça un peu bizarre?
Je trouve toujours ça bizarre. Moi, je me rappelle encore d'un géant de l'auto, je pense que c'était Chrysler, quand il y a eu le crash de 2008-9, là, c'était fait donner beaucoup de millions, puis on avait pardonné le prêt des années après, même si ça avait recommencé à bien aller. Plus tu donnes un gros montant, on dirait que moins il y a de garde-fous.
Bernard Landry a fait ça chez Kenworth. On a essayé de le faire chez Goodyear à Valleyfield. Finalement, Goodyear a dit, même avec l'argent, on s'en va. On l'assomption, tu te souviens, M. Legault a perdu son usine. On s'est en allé à Memphis. Même là, on a fermé. Et donc, c'est pas juste nous autres qui paient le prix de ça, c'est un jeu mondial, mais c'est décourageant.
Bon, on connaît le principe de réduflation. On vend un produit alimentaire le même prix, mais on réduit les portions. Là, on est peut-être rendu à la réduit-tolérance.
Oui, réduit-tolérance routière. Écoute, c'est un contact à moi qui m'a écrit, qui m'a envoyé des papiers avec preuve, évidemment, tu comprends?
OK.
Lui, il roule sur les autoroutes du Québec. Il dit, moi, je mets ce qu'on appelle en bon québécois mon cruise control. Ça veut pas dire qu'il s'accrouse tout le temps. C'est que il se met à 118 dans les zones de 100 km en disant, la police à 118, tout le monde sait qu'en bas de 120, tu ne prends jamais de ticket de vitesse dans une zone de 100. On est d'accord? Les radars photos, même affaire, jamais rien pogné. Et là, coup de théâtre, il reçoit une lettre officielle d'un radar photo qui lui dit la chose suivante. Vous avez été pris dans le nord, sur l'autoroute 15, à une vitesse vraiment excessive de 118 km/h.
Et avant, c'était correct.
Ben avant,
il passait.
Ben oui. Que, sur le cruise, en plus, Patrick, quand tu es sur le cruise control, tu te dis, crème, ils peuvent pas dire que j'ai pesé ça à sus en bon québécois. Je m'en allais à 118. Alors, ça veut dire que quand tu y penses, et là, je soulève une hypothèse parce que c'est mon taquin de jeudi soir. Est-ce qu'on pourrait penser que le gouvernement a dit, hey, vous savez quoi, les radars photo à 120, on pogne pas assez de monde. On peut-tu baisser ça à 115? Je me pose la question, parce que là, il y a un ticket à 118, ça a coûté 80 $, excès de vitesse de fou. Et là, je me dis, dans le fond, là, c'est comme si tu commences à mettre les radars à 118 quand tout le monde roule à 120, ben c'est comme de mettre un péage sur une autoroute parce que tout le monde va se faire pogner.
T'as raison, mais écoute, quelqu'un qui est de mauvaise foi pourrait te dire la limite, c'est 100.
Oui, mais ça, c'est un peu comme. Il y a dans la vie des affaires qui sont tolérées, donc il y a la limite légale et la limite de facto. Il y a le prix légal et le vrai prix. Il y a l'attitude corporative et la vraie attitude. Comment? Il y a toujours une marge entre les deux. Sur l'autoroute, il y a la limite de vitesse officielle et le 20% de magie qu'on a tous le droit depuis des décennies. Si le gouvernement change les règles
dont on profite plutôt que le droit, je dirais.
OK, t'as raison, au niveau du droit, on profite ou qu'on nous donne le choix, le libre choix. C'est comme un peu quand tu t'en vas dans un bar, puis tu vas prendre un demi-verre de vin, puis que le barman t'a dit, va t'en faire un petit shot de plus. Ben ça, c'est comme le dépassement limité qui est conçu dans les règles non écrites. Et donc, Patrick, ici, ce que je suis en train de dire, c'est que si le gouvernement fait ça, il vient d'augmenter son niveau de taxation, implicitement sans le dire à personne. Et avant que tout le monde ait pogné étiquette à 118, on fait le tour du Québec, on fait des frais de retour, puis là, on va financer nos routes. Alors, est-ce que t'as mieux, toi, Patrick, un péage officiel à 80$ parfois que tu passes sur l'autoroute, ou d'avoir une étiquette à 80$ parce que tu roules à 118 sur une autoroute que tu roules toujours à 118, sauf les fins de semaine quand tu vas au chalet?
Écoute, je vais y penser, mais ce que je vais faire,
c'est la loi.
Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire encore plus ma vitesse.
C'est ça. Puis tu sais, j'avoue que moi, d'un côté fiscal, si tu me disais, oh, j'ai pas déclaré 20% de mon revenu, c'est toléré d'habitude, je te taperais ses doigts, ben tu pourrais me dire la même chose avec la vitesse sur l'autoroute, de dire, Pierre-Yves, c'est 100 la limite, même si tu as l'impression d'être arrêté à 100, c'est 100, vis avec. Alors, il y a un auditeur qui nous rappelle qu'il faut toujours rouler à 100 maximum.
Écoute, ou 102. Merci, Pierre-Yves.
Salut.
On se retrouve lundi au retour. Miss America est là.
Consommer encore plus de ces fixes, c'est faisable et c'est facile. Pour consulter toutes nos nouvelles et nous écouter en direct, consultez directement notre site internet, cfixrimouski.com. Mais ce n'est pas tout. Pour les concours et entrer en contact avec nous, allez sur notre page Facebook, les fans de CFX 93 Rimouski. Pour être informé dès que nous obtenons une information, rendez-vous sur notre compte X, CFX FM 93. Et simplement pour avoir des nouvelles de l'équipe, rendez-vous sur Instagram au CFX FM 93. Qu'est-ce que vous attendez pour nous suivre?
Le beau temps approche à grands pas et chez Batterie Expert, nous sommes prêts à vous faire vivre une saison inoubliable. Avec une vaste sélection de vélos, quadriporteurs et autres petits véhicules électriques, nous vous invitons à découvrir l'aventure qui vous attend. Nos experts sont là pour prendre soin de vos besoins en entretien et réparation sur place. Pour l'entretien de votre terrain, nous vous proposons les produits Ego, tondeuses, couperbes, souffleurs à feuilles et autres accessoires. De plus, ne manquez pas notre collection d'accessoires solaires. Batterie Expert, 145 montées industrielles et commerciales, Rimouski.
Soyez bien accompagnés pour partir à l'aventure avec le Mazda CX-50 2024. Pour une durée limitée, profitez d'un boni Mazda de $750 sur les modèles sélectionnés. Tous les détails chez votre concessionnaire Formule Mazda à Rimouski.
Rimouski, 93.3.
Voici vos nouvelles du 25 avril 2024. La Sûreté du Québec confirme que deux personnes sont suspectées d'avoir attenté à la vie d'une troisième personne ce matin à Saint-Angèle dans la Mi-6. Vers 9h30, les policiers ont été appelés à se rendre dans une résidence de la rue Laurent-Thibault à Saint-Angèle-de-Mérissy concernant un homme de 31 ans ayant été blessé par arme à feu. Celui-ci a été transféré vers un centre hospitalier afin de soigner des blessures sérieuses qui ne mettent pas sa vie en danger. La SQ a déclenché immédiatement une opération policière dans le but de localiser le véhicule suspect sur les différents axes routiers du Bas-Saint-Laurent. Cette opération a permis d'interpeller un homme et une femme dans le secteur de la route 132 à Notre-Dame-des-Neiges peu après 10h30 en lien avec cette affaire. Les deux individus ont été interrogés par la division des enquêtes sur les crimes majeurs. Des techniciens en identité judiciaire se sont également rendus sur les différentes scènes de l'événement. Le propriétaire du navire CNM Évolution et propriétaire de la compagnie de traverse Rimouski-Forestville, Hilaire Journeau, aurait l'intention de ramener le service à Rimouski l'an prochain. On vivra cependant, à l'été 2024, une seconde saison complète sans traversier à Rimouski. Les installations propriété de M. Journeau demeurent sur le quai de Rimouski en attendant la réalisation de travaux visant à rendre le navire plus efficace sur le plan énergétique. Hilaire Journeau a confirmé à Radio-Canada qu'il a effectué une demande de permis auprès des autorités fédérales pour la saison 2025. Des citoyens s'inquiètent du sort des résidents du manoir Normandie qui n'ont plus que 4 mois pour quitter les lieux. L'une d'entre eux, une dame du district Terrasse Arthur-Buis, entend se présenter à la prochaine assemblée du conseil municipal pour demander à la ville de s'assurer que les choses se déroulent en tout respect pour les 20 aînés qui sont toujours résidents au manoir, qui veut redevenir un établissement hôtelier. Le conseiller en communication du Centre intégré de santé et services sociaux, Gilles Turmel, signale que c'est la responsabilité du manoir de s'assurer que ses résidents sont bien traités. Et enfin, le ministère des Transports et de la Mobilité durable publie un premier appel d'offres afin de retenir une firme offrant des services professionnels pour le projet de prolongement de l'autoroute 20 de Trois-Pistoles vers Rimouski. C'était Pierre Michaud pour vos informations. Nos nouvelles sont sur cfixrimouski.com.
Réveil Rimouski vous parvient en direct du studio McDonald's du lundi au vendredi de 6h à 10h. CFIX FM 93.
Salut Valérie.
Salut Patrick.
OK, avant de passer au sujet principal de ta chronique, qui est les plaidoiries de l'avocat de M. Trump devant la Cour suprême pour convaincre les juges de lui donner une pleine immunité ainsi qu'à tous les présidents futurs contre les poursuites criminelles, tu veux revenir sur cette décision de la Cour suprême, cette fois de l'État de New York, qui a cassé le procès de Harvey Weinstein.
Oui, et je sais que tu en as parlé un peu plus tôt à l'émission, mais c'est la grosse nouvelle aux États-Unis si on met de côté tous les dossiers touchant à Donald Trump, parce qu'Harvey Weinstein, c'est vraiment avec lui qu'on associe le début du mouvement MeToo. Alors, onde de choc aux États-Unis. Là, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'il va être transféré à cette prison de Californie où il doit purger une peine pour la suite des choses, parce qu'il y a toujours ce verdict qui est là. Mais pour New York, c'est un gros choc. Il y a plusieurs femmes qui auraient voulu participer à ce procès-là. Il y en a seulement deux qui étaient dans le procès. Mais le problème, des erreurs de procédure encore. Alors, je te dirais qu'il y a énormément de personnes qui remettent en question ce système de justice qui va très, très vite. Est-ce qu'on croit encore ces victimes-là? Ça peut avoir un effet.
Là. Valérie, d'abord, il faut dire une chose. La décision est très partagée. Hein? 4 juges contre 3. Un juge aurait changé d'idée du côté de la majorité. Mm-hmm. Puis Weinstein serait encore en prison à New York. Ceci étant dit, au Canada, dans des causes semblables, ce que le procureur a fait à New York, les procureurs le font pas ici. Mm-hmm. Puis pour situer les gens, on a retenu les témoignages de deux plaignantes. On a basé l'arrestation de Weinstein et sa poursuite là-dessus. Mais on a fait entrer dans le procès comme témoin de la poursuite des femmes qui disaient avoir été agressées, mais on n'a pas retenu leur plainte. C'est là-dessus que le procès a été cassé.
Oui, parce qu'il y en a que ça faisait trop longtemps. Il y en a que ça pouvait être des accusations civiles, mais pas aux criminels. Mm-hmm. Écoute, il y a des actrices comme Angelina Jolie qui l'avaient dénoncé. Il y en a plein d'autres. Eux ne pouvaient pas participer nécessairement à ce procès-là, mais c'est juste un peu pour, disons, nuire à sa réputation ou en rajouter une couche supplémentaire.
Oui.
Je suis pas en train de dire qu'il fait pitié. Là, Harvey Weinstein, on s'entend. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'allégations
La dernière fois, j'ai vu un décompte. Là, on était rendu à 90.
J'allais dire presque 100, mais c'est je suis ça. Pas si loin. Je pensais que j'exagérais en disant ce chiffre-là. Alors, c'est comme je te disais, onde de choc, les critiques du système à New York. C'est Alvin Bragg aussi qui va devoir gérer ce dossier-là, qui lui gère aussi les dossiers impliquant Donald Trump. Alors, tout est dans tout.
C'est le même procureur.
Voilà.
OK, parfait. On se déplace maintenant de la Cour suprême d'État de New York à la Cour suprême des États-Unis. Journée très importante parce que ce dont on débat en marge des accusations contre M. Trump pour avoir incité à une révolte au Capitole, c'est la question suivante. Est-ce qu'un président des États-Unis jouit d'une immunité totale quand il est en mandat?
Et le mot total est très important. Total, absolu et tous les autres synonymes. Parce que Donald Trump, et tantôt j'avais l'air de faire de l'humour quand je disais en tour de table, est-ce qu'on a le droit de tuer quelqu'un et ne pas être poursuivi par la suite si on est président et on est en mandat? Mais c'est vraiment des questions qui sont revenues aujourd'hui encore à la Cour suprême. Parce que si tu pars de la prémisse que tu as une immunité qui est totale, ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi. En théorie, tu peux faire un coup d'État, tu peux décider de, tu sais, des pardons présidentiels, on peut tout ça, mais est-ce que tu peux commander le meurtre d'un adversaire politique?
C'est la question théorique qui a été posée à l'avocat Trump. Et l'avocat Trump a dit, écoutez, selon notre interprétation de l'immunité totale, la réponse, c'est oui. Après ça, il dit, bon, il pourrait se faire impeacher, etc. Juste souligner une affaire, Val. Ça veut dire, selon cette théorie-là de l'avocat Trump, ça veut dire que M. Biden peut ordonner l'assassinat de M. Trump.
Exactement. C'est un très bon point. Et que s'il n'est pas destitué, eh bien, après son mandat, il peut continuer sa vie, aller au Delaware. Il peut avoir un autre mandat aussi. Il peut être élu et il n'y en a pas de problème.
Il peut demander un coup d'État aussi.
Voilà. Alors, on va voir quelle va être la décision. On a quand même des indices parce qu'il y a des questions qui sont posées par les juges. On sait donc qu'est-ce qui peut-être y penche de quel côté. À mon avis, il y a cette possibilité qu'on renvoie ça au cours inférieur pour évaluer. Qu'est-ce qui était dans le cadre de son travail? Qu'est-ce qui était dans le cadre de sa vie personnelle à tout ce qui a touché à cette tentative de renverser l'élection? Et si c'est ça, écoute, le délai, là, on va jamais se rendre avant l'élection.
Écoute, le consensus des analystes que j'ai lu, puis tu as sans doute vu la même chose, c'est que la Cour suprême va probablement dire non, un président des États-Unis n'a pas une immunité totale pendant qu'il est président contre des poursuites criminelles. Mm-hmm. Parfait, ça c'est une chose. Mais ils vont probablement kicker la canne, comme on dit en mauvais québécois, au cours inférieur, comme tu as dit. Puis ce procès-là, pour avoir incité à une révolte au Capitole, ça n'aura probablement pas lieu avant l'élection.
Et ça se peut même qu'ils décident de ne pas se prononcer sur l'immunité totale. Ils peuvent avoir le choix de dire, on veut pas se prononcer, on renvoie ça au cours inférieur. C'est pas la question qui est nécessaire. C'est pas nécessaire d'y répondre. Mais par contre, c'est tellement une occasion de se prononcer une fois pour toutes sur cette immunité présidentielle. Oui, Nixon, il y a déjà eu un cas où au civil, on avait déterminé qu'on peut pas être poursuivi pour des actes comme président au civil. Mais là, on est au criminel. C'est vraiment un autre dossier. Et tout ça bloque la suite des choses. Tous les autres procès sont sur la glace pour Donald Trump.
Et en Arizona, il y a Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York,
ancien
avocat à la mauvaise teinture de M. Trump, et Mark Meadows, qui est son ancien chef de cabinet à M. Trump, qui sont accusés aussi en lien avec la tentative de renverser l'élection de 2020.
Et nous sommes en 2024. La tentative de renverser l'élection était en 2020, début 2021.
C'est un peu, la justice là-bas de ce temps-là est aussi lente qu'au Canada.
Écoute, c'est incroyable. Je sais pas qu'est-ce qui est pire, mais oui, on a dit qu'on a pris le temps, on voulait être rigoureux,